Bienvenue sur Présence, très heureux de vous accompagner en Occitanie avec ce beau soleil et de très belles émissions. Dans 3 minutes, vous aurez Isabelle Honnel qui va chercher à répondre à cette question. Que se passe-t-il dans la ville rose entre violence et insécurité? Pour cela, elle reçoit Didier Martinez, secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police. En ce mercredi 16 septembre, nous allons tout savoir avec Emmanuel Pella dans Église Actualité. C'est dans moins d'une demi-heure. Mettez vos chaussures, on vous emmène dans le Gers. Avec Isabelle Honnel pour le tour des diocèses. C'est dans une petite quarantaine de minutes. En fin d'heure, votre chronique L'air du temps avec Patrice Desplanquettes. Mais juste avant, bien sûr, les titres avec Luc Vidal-Giraud dans l'Occitanie.
On le sait, la rentrée universitaire qui bat son plein suscite certaines inquiétudes dans le contexte actuel de crise sanitaire. Les 127 élèves testés positifs au Covid-19 à l'INSA de Toulouse sont là pour le rappeler. Ils ont d'ailleurs été priés de rester chez eux. L'enseignement se poursuivra à distance pendant au moins 15 jours. Et puis autre exemple, en Béarn, le président de l'université de Pau et des Pays de l'Adour a pris hier un arrêté qui réorganise l'enseignement sur les différents campus de la fac. Jean-Luc Moudenc était à Paris hier. Le maire de Toulouse y a rencontré les ministres de l'Intérieur et de la justice pour plaider un renforcement des effectifs policiers dans la ville rose. Il souhaiterait obtenir de 150 à 200 policiers supplémentaires. Jean-Luc Moudenc semble avoir été entendu. Sans s'engager sur des chiffres précis, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit d'accord sur le principe d'un rattrapage progressif du nombre de policiers. Mobilisation des salariés des laboratoires Biofusion du Tarn-et-Garonne et du Lot. Ils sont en grève et demandent une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail. C'est un rendez-vous que tous les professionnels de la petite enfance peuvent cocher sur leur agenda. Du 10 au 17 octobre prochain se tiendra la 7e édition de la Semaine nationale de la petite enfance. Elle est placée cette année sous le signe de l'aventure, organisée par l'association Agir pour la petite enfance. Cette semaine se déroulera dans toute la France et dans près de 300 lieux en Occitanie. C'est un coup dur pour l'économie ariégeoise. Le sous-traitant aéronautique MKAD, installé à Varilhes, devrait fermer ses portes sous peu. Au cours d'un comité social et économique extraordinaire, MKAD a annoncé aux représentants du personnel le projet de mettre un terme à son activité basée sur le site ariégeois. Une cinquantaine de salariés est concernée. En matière économique, toutes les nouvelles ne sont pas fatalement mauvaises, même si la crise aéronautique ne l'a pas épargnée. L'équipementier lotois Ratier-Figeac vient de décrocher une nouvelle commande. Elle émane de l'armée de l'air américaine et concerne la fourniture de systèmes d'hélices. Leur conception et leur production seront assurées sur le site de Ratier-Figeac. C'est désormais acté, le groupe BVA, notamment réputé pour son institut de sondage et dont le siège social est basé à Toulouse, va changer de propriétaire. Placé en redressement judiciaire depuis le 5 juin par le tribunal de commerce, BVA et ses 1800 salariés dans le monde, 1000 en France, dont 500 dans la ville rose, étaient toujours dans l'attente d'un repreneur. Le tribunal a désigné le fonds de dette Alcentra pour reprendre BVA. N'hésitez pas à aller faire un tour à Marciac dans le Gers pour la journée portes ouvertes organisée ce mercredi toute la journée à l'école de musique Les Cadets de Pardiac. Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés. Un éveil musical est prévu de 3 à 6 ans et une formation musicale pour enfants et adultes y est dispensée pour l'apprentissage de la pratique d'une multitude d'instruments. Et puis bonne nouvelle pour Rodez, l'annonce de la réouverture dès mardi prochain, mardi 22 septembre, du musée Soulages. Il était fermé depuis le début du mois en raison de la découverte de 6 cas positifs au Covid-19 parmi des agents d'accueil et de surveillance.
Merci Luc, on vous retrouve dans 30 minutes pour l'essentiel de l'actualité.
La météo.
Pour cet après-midi, quelques nuages, il fera quand même relativement beau avec en moyenne du 31 degrés. Pour demain matin, grand soleil pour la plupart des départements comme dans le Lot avec du 18 degrés ainsi qu'à Rodez et près de Nougaro, 19 pour le Tarn-et-Garonne, 20 à Castanet-Toulousaine et pour Saint-Gaudens. L'après-midi, encore de très belles températures. La maximale sera de 33 degrés à Catus Mirabel sur les terrasses du Capitole à Toulouse et dans le Gers, 32 pour Tarbes et 29 pour Rodez. Comme le début de semaine, gardez vos lunettes de soleil sur le nez, votre chapeau sur la tête et votre bouteille d'eau à proximité. C'est l'heure de l'interview de ce matin avec Isabelle Honnel. Bien sûr, vous pouvez retrouver cette interview sur l'application smartphone Radio Présence.
Présence dans la Haute-Ariège, 92.7. Des coups de feu auraient encore été entendus ce week-end dans le quartier Bellefontaine à Toulouse. La semaine dernière, un homme a été retrouvé mort dans le quartier Lalande, cette fois portant à 5 le nombre de victimes dans une fusillade en un mois. Ville rose et insécurité, on fait le point ce matin avec mon invité. Bonjour Didier Martinez.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes policier, on l'a dit, vous êtes également secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police, syndicat majoritaire. Alors, on va être cash ce matin, 5 fusillades au moins, 5 morts. Qu'est-ce qui se passe ?
Ben, c'est très significatif et révélateur de ce qui se passe en réalité depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'on assiste à une montée en puissance tant de la délinquance que de la criminalité, et particulièrement ciblée autour et au travers de trafics de stupéfiants, d'une économie souterraine de plus en plus prospère et qui s'élargit. Et cette querelle de territoire, cette conquête de territoire que se mènent des bandes rivales donne lieu à des règlements de comptes et aux drames auxquels on assiste régulièrement.
Alors, on va faire justement un point sur la violence dont on parle. Les 5 morts évoqués, ce sont effectivement souvent des drames liés au trafic de stupéfiants. Est-ce qu'il faut distinguer ces événements de l'incivilité, de la délinquance quotidienne ? Autrement dit, est-ce que ces faits-là sont aussi des indicateurs de la montée de la violence ou il vaut mieux les isoler ?
Alors je crois que dans les propos qu'on a, le mot incivilité, on peut le bannir d'emblée. On est vraiment dans de la délinquance dure, dans de la criminalité. Quand ce sont des armes lourdes qui parlent et sur la voie publique, au mépris de l'ensemble de la population et qui donnent lieu bien à beaucoup de blessures et des personnes décédées, on voit que Toulouse est dans la ligne continuité de Marseille ou de grandes villes qui connaissent elles aussi une explosion de cette montée en puissance de criminalité. Criminalité de délinquance. Ensuite, il faut bien observer, vous l'avez dit, la petite délinquance qui, elle, a toujours lieu à Toulouse. Les agressions, les vols, tout ce qui fait le quotidien de nos policiers, lesquels assurent par leur présence la sécurité du mieux qu'ils peuvent auprès de la population. Mais c'est très compliqué dans les quartiers. Ces quartiers qui sont des territoires que s'approprient les bandes rivales, qui veulent avoir leurs propres lois, leurs propres règles, et qui, lorsque la police arrive, eh bien, occasionnent des hostilités, des coups, des blessures, des rébellions à chaque fois qu'il y a des interpellations. Et effectivement, la police a les pires difficultés à intervenir dans ces quartiers.
Oui, on sent la fougue du policier qui parle, probablement le ras-le-bol, parce que cette violence s'exerce aussi contre vous, policiers, hein ?
Tout à fait, elle s'exerce sur plusieurs aspects. Celui dont je viens de vous parler dans les quartiers pour mettre un terme, pour faire des offensives dans les points de deal et de trafic, mais aussi au quotidien lorsque, à présent, de simples usagers de la route n'hésitent plus à foncer sur des policiers qui leur font signe de s'arrêter. C'est-à-dire que quelqu'un désormais qui n'aurait pas d'assurance, pas de permis ou aurait bu, n'hésitera pas à foncer sur le policier. C'est devenu un petit peu une banalisation, on assiste systématiquement dans la presse, dans l'actualité à ce genre de phénomène, le refus d'obtempérer, le refus de se laisser contrôler, le refus de se soumettre aux vérifications ou à l'interpellation, et immédiatement, mais c'est des rébellions, des refus d'obtempérer, des blessures occasionnées, et pour les policiers, d'inquiétantes et très difficiles conditions de travail.
Et ce refus d'obtempérer, vous me disiez en préparant cet entretien, qu'il touchait également, qu'il pouvait en tout cas toucher Monsieur Tout-le-Monde. La violence se propageait dans toutes les strates, hein.
Absolument. Les gens qui voient bien que les délinquants et que n'importe qui ne se laisse plus contrôler, désormais sur le simple port du masque, ça va être des invectives, un refus de se laisser contrôler. Sur la voiture, ce que je vous disais, n'importe qui peut prendre la fuite, tenter de s'échapper. Et on assiste d'ailleurs au délit de fuite classique. Lorsqu'il y a des accrochages ou des accidents, combien est-ce qu'on constate de conducteurs qui prennent la fuite sans se manifester ? Le phénomène monte en puissance et on voit que dans la société aujourd'hui, c'est un petit peu à l'image de ce qui peut se passer sur cette violente délinquance, puisqu'on se dit finalement, et c'est là en ce sens notre propos, il n'y a pas suffisamment de sévérité et de non seulement de répression, mais de continuité dans la chaîne pénale, et à tous les niveaux de la société, aujourd'hui, ce mal se propage.
C'est ça pour vous, votre explication à cette hausse de la violence, un sentiment, alors on a beaucoup parlé d'un sentiment d'insécurité, auquel répond finalement un sentiment d'impunité, c'est ça ?
Alors le sentiment d'impunité, il est bel et bien présent. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique hein, toutes ces récidives auxquelles on assiste et pour lesquelles on voit bien la population s'offusque de voir des gens qui devraient être en prison et qui commettent des méfaits qui sont sortis, de voir des délinquants, nous-mêmes policiers, on interpelle des personnes qui ont 20, 25 fiches d'interpellation à leur actif. C'est-à-dire que 25 fois la personne qu'on va interpeller a déjà été présentée à un juge. Donc on considère bien qu'il n'y a aucune dissuasion dans les décisions qui sont prises, aucune efficacité des sanctions si elles sont prononcées et si elles sont effectuées. Vous voyez tout ce qu'il faut mettre au conditionnel. Alors l'arsenal pénal, il existe bien. Il y a des règles. On vous dit, vous avez 2 ans d'emprisonnement, 3 000 euros d'amende, tout ça, ça existe. Mais réellement, la plupart du temps, pour les mineurs délinquants, c'est un rappel à la loi. Et pour les récidivistes, le plus souvent, ce sont des peines bien trop faibles pour qu'elles soient significatives et dissuasives, d'où impunité et d'où récidive et montée en puissance et extension de tous ces méfaits, ces actes commis.
Bon, et il y a des chances que le chômage, la drogue, pour ces personnes, parce qu'on parle d'un certain type de délinquants, j'imagine, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt.
Mais vous parlez de chômage et beaucoup essayent de nous dire, voilà, il faudrait remettre de l'emploi dans les quartiers, redonner un statut social. Mais écoutez, un trafiquant, un délinquant dans les quartiers, vous avez des centaines d'individus qui, les guetteurs, ceux qui apportent la substance, ceux qui font le deal, ces gens-là gagnent 1000 euros par jour pour certains. Comment voulez-vous leur expliquer que la réinsertion, que leur donner un travail, même à 1500 euros par mois, c'est les remettre au banc de la société? Ils s'en moquent royalement quand on gagne 1000 euros par jour, on n'a que faire de toute proposition et de toute stimulation à réinsérer la société traditionnelle en allant travailler honnêtement. Donc il y a des choses qu'on peut entendre, d'autres qui sont beaucoup moins possibles et bien délicates à mettre en œuvre. Cependant, le phénomène est très présent. Cette économie souterraine, elle fait brasser des sommes considérables. Elle intéresse et elle engage de plus en plus d'individus, de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Et voilà aujourd'hui à quoi nous devons faire face.
J'imagine que le débat qui a eu lieu hein, ces temps-ci sur l'ensauvagement, c'était les mots du ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin, ça évoque quelque chose pour vous. Qu'est-ce que vous en dites?
Oui, mais l'ensauvagement, c'est tout à fait révélateur et significatif. On partage absolument cette analyse. On voit que les actes de violence commis sont sans aucun respect, sans scrupules, par rapport à l'intégrité physique des personnes. On ne respecte plus la vie humaine. On porte des coups de façon gratuite pour une cigarette, pour dérober un sac, pour tous les actes de malveillance. La violence est associée. La rébellion contre les forces de l'ordre est même gratuite. Souvent, elle se fait pratiquement au quotidien. On a toutes les semaines ici à Toulouse des policiers blessés dans l'exercice de leurs fonctions. Donc on voit que ce déferlement et cet acharnement à contester l'autorité de l'État, à remettre en question la présence des services publics dans certains endroits et dès lors que l'autorité s'affirme en tout lieu et toutes circonstances, c'est aussi des réponses qu'il va falloir donner. Parce que là, à l'heure actuelle, le policier, la police fait son travail, mais derrière, la justice, malheureusement, ne suit pas.
Alors ce sentiment d'insécurité, hein, c'est probablement plus qu'un sentiment. C'est difficile d'avoir des chiffres. Alors je suis allée quand même voir sur le site du ministère de l'Intérieur, ça concerne la France. Ce sont des chiffres publiés en janvier 2020, hein, plus de 12%, une hausse de 12% des violences sexuelles, une hausse de 11% des escroqueries, une hausse de 9% des homicides. Donc c'est peut-être probablement plus qu'un sentiment. Ce qu'on dit pour Toulouse, est-ce que ça se passe ailleurs en Occitanie? Et je veux parler également des villes de taille moyenne. Est-ce que cette montée de la violence se retrouve partout?
Ben je vous dirais qu'à Toulouse, je vous disais, à l'instar de Marseille, est en pleine progression. Donc on suit le rythme des grandes métropoles. Et les petites villes, effectivement, dans la région, subissent également cette montée de délinquance. Là aussi, des trafics s'organisent, mais également on assiste à l'ensemble des phénomènes que l'on connaît aujourd'hui. Donc l'ampleur, elle est évidemment au niveau national et ça complique forcément l'ensemble de notre travail.
Alors je voudrais qu'on fasse un petit point pédagogique à l'endroit de ceux qui nous écoutent. Je rappelle que je suis en compagnie de Didier Martinez, qu'on parle de la sécurité à Toulouse et ailleurs. Didier Martinez est policier, secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police. Un petit point d'organisation. À qui il incombe de faire régner l'ordre dans une ville comme Toulouse? Qui fait quoi?
Alors, d'une part, on a la police nationale qui exerce la mission régalienne d'État d'assurer la sécurité publique, complétée par une police municipale, et les deux forces se veulent complémentaires. Voilà. Donc ça, c'est évidemment... en zone rurale, on aurait les gendarmeries avec des polices municipales également. Les compétences des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Mais je voudrais en quelques secondes revenir également sur les statistiques dont vous parliez tout à l'heure et des chiffres. L'évolution de la délinquance, elle se quantifie, elle se détermine par rapport à des faits qui ont été rapportés et constatés. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, la plupart des méfaits commis ou des dégradations subies par des personnes ne donnent pas lieu à un dépôt de plainte. Parce que quelqu'un qui a déjà subi un préjudice ne va pas passer 10 minutes ou 1 heure ou 2 heures dans un commissariat.
Ça veut dire qu'il y en a probablement plus que les chiffres nous le disent.
Ah, il y en a largement plus, évidemment. Les gens sont saturés et ne perdent plus de temps à déposer plainte. Donc, on peut très mal chiffrer la réalité de la délinquance. Mais déjà, le peu qui est quantifié rapporté est très significatif dans l'augmentation. Il fallait le préciser aussi.
On ne va pas en rester là tout de même, puisque ça serait un constat navrant et désolant à l'endroit de ceux qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on endigue la violence, Didier Martinez? Jean-Luc Moudin, le maire de Toulouse, était à Paris hier. Il a rencontré le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Il devait rencontrer également le ministre de la Justice. Il a plaidé pour un renfort de 40 policiers supplémentaires chaque année pendant 5 ans. Même demande auprès du ministre de la Justice, un rattrapage du nombre de magistrats, de greffiers ou personnel administratif. Est-ce que c'est ce que vous demandez? Ça va dans le sens de ce que vous demandez?
Oui, absolument. Alors, il y a une chose dont il ne faut absolument pas douter, c'est la détermination, le professionnalisme des policiers. Et effectivement, cet appel à l'aide, ce constat qui est fait aujourd'hui, afin que nous soyons aidés, afin qu'on bénéficie d'effectifs pour être efficace, pour être opérationnel, tant sur la voie publique que pour mener des enquêtes, heureusement, nous semblons avoir été entendus. Maintenant, les chiffres annoncés devront être évidemment discutés et réadaptés, parce que même si on dit 40 policiers par an à Toulouse sur 4 ans, à Toulouse, on a 30 départs en retraite par an. Donc vous voyez, il faut tout relativiser, il faut tout mettre sur la table, mais on ne peut que constater que ça va tout de même dans le bon sens. Nous avons peut-être été enfin entendus.
Est-ce que ça veut dire que la solution passe forcément par une montée des effectifs de police? Est-ce que ça ne peut pas être ailleurs également?
Oui, il y a plusieurs solutions, mais concrètement et immédiatement dans l'efficacité, je dirais, le nerf de la guerre en matière de sécurité, c'est la présence policière sur le terrain. Dès lors qu'on peut prévenir avec ce qui s'appelait la proximité, en étant plus présent, en étant plus réactif, plus opérationnel, ça c'est de l'effectif de terrain et aussi l'effectif d'enquête pour recevoir les gens, pour aller rapidement dans les instructions et la présentation des dossiers à la justice. Tout cela pour une véritable efficacité de la chaîne police-justice, c'est indispensable. Ensuite, les approches politiques, quelles qu'elles soient, sur la thématique sécuritaire et comment régler l'ensemble de ces problèmes, oui, ça demande beaucoup de pistes de réflexion, mais la plus urgente, c'est effectivement l'effectif et les moyens de la police nationale.
Vous êtes en colère, Didier Martinez?
Oui, comme toute la corporation, comme tous mes collègues, puisque les blessures subies, les mises en cause, les stigmatisations, parce qu'on le voit, les policiers sont systématiquement épiés, filmés, décriés, toute interpellation, elle donne lieu aujourd'hui à une rébellion, à des offensives, ça devient insupportable pour les collègues. La ultra grande majorité des policiers fait parfaitement son travail, est totalement aguerri à la mission de sécurité publique. Et il est vrai que si parfois il peut y avoir des dérapages ou des séquences qui sont hors contexte, eh bien nous, le syndicat de police, nous les sanctionnons au même titre que l'administration, puisqu'il y a des conseils de discipline. La police est l'administration la plus surveillée, contrôlée et sévère lorsqu'il y a de la discipline. Mais de grâce, tous les autres policiers, tous ceux qui font parfaitement leur travail, sont vraiment mis au pilori systématiquement. Et ces mises en cause, eh bien, elles affectent aussi au travers de leur vie familiale et professionnelle, l'ensemble de nos collègues.
Un grand merci Didier Martinez pour ce coup de gueule que vous passez ce matin. On l'a bien entendu, vous êtes secrétaire régional du syndicat Unité SGP Police. On a fait un tour d'horizon ce matin sur l'insécurité, le sentiment en tout cas à Toulouse. Merci à vous.
Merci.
Le soleil tape sur votre pare-brise où que vous soyez en Occitanie. Vous êtes sur Présence, vous allez chez vous pour cette pause repas. Bon appétit. Dans 3 minutes, vous allez tout savoir avec l'agenda d'Emmanuel Pella dans Église Actualité. Nous allons accompagner ce beau temps avec la belle voix du Palois, c'est Vianney, sur votre radio chrétienne. Il est midi 19. à la pendule de présence.
Do you recall, not long ago, we were walk on the sidewalk. Innocent, remember, all we did was care for each other. But the night was warm, we were bold and young. All around, the wind blows, we will only hold on to let go. Blow kiss, Weigen, we need someone to lean on. Blow kiss, Weigen, now we need somebody to lean on. Blow kiss, Weigen, we need someone to lean on. Blow kiss, Weigen. What we would do when we get old, we will walk down the same road. Will you be there by my side, standing strong, got the way to our lover. When the nights are long, longing for you to come home. All around, the wind blows, we will only hold on to let go. Blow kiss, Weigen, we need someone to lean on. Blow kiss, Weigen, now we need somebody to lean on. Blow kiss, Weigen, we need someone to lean on. Blow kiss, Weigen.
Place du Capitole, 97.9.
Église Actualité, Emmanuel Pella.
Demain, à Moissac, pour rappel, commencera le 14e pèlerinage des mères de famille du Tarn-et-Garonne, organisé par le diocèse de Montauban, avec une messe d'envoi célébrée par Mgr Bernard Ginoux. Rendez-vous demain à 9h à l'abbatiale de Moissac. Ce vendredi 18 septembre à Toulouse, le diocèse, avec la direction diocésaine de l'enseignement catholique, propose de venir participer pour rappel à la messe de rentrée de l'enseignement catholique qui sera présidée par Mgr Robert Le Gall, archevêque du diocèse. Rendez-vous ce vendredi à 18h30 à la cathédrale Saint-Étienne à Toulouse. Ce samedi 19 septembre à Villefranche-de-Rouergue, la paroisse Saint-Émilie du Villefranchois et la Congrégation de la Sainte Famille organise la fête de Sainte-Émilie sur le thème « Fêtons la création ». Pour ton renseignement, un site internet www.rodez.catholique.fr. Ce samedi 19 septembre également, à Pau, le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron propose la rencontre du mouvement des cadres et dirigeants chrétiens, MCC. Le MCC est un mouvement apostolique de laïcs reconnu par l'Église qui s'adresse aux cadres et dirigeants. Pour tout renseignement, un site internet www.diocèse64.org. Ce samedi 19 septembre également à Rodez, le diocèse de Rodez et Vabre organise l'Assemblée Générale du CCFD Terre Solidaire avec Mgr François Fonlu, évêque du diocèse. Rendez-vous ce samedi dès 9h30 à la maison diocésaine Saint-Pierre à Rodez. Enfin, ce samedi 19 septembre à Cahors, suite à l'annulation du PLVTT 2020, le diocèse de Cahors organise une journée VTT afin de maintenir la belle dynamique spirituelle et sportive lancée dans le diocèse. Je cite les organisateurs pour tout renseignement, un site internet www.cahors.catholique.fr.
Retrouvez Église Actualité sur le web en tapant www.radioprésence.com.
Radioprésence dans le Grand Toulouse, 97.9.
L'essentiel de l'actualité avec notre journaliste de Lourdes, Luc Vidal-Giraud.
On le sait, la rentrée universitaire qui bat son plein suscite certaines inquiétudes dans le contexte actuel de crise sanitaire. Les 127 élèves testés positifs au Covid-19 à l'INSA de Toulouse sont là pour le rappeler. Ils ont d'ailleurs été priés de rester chez eux. L'enseignement se poursuivra à distance pendant au moins 15 jours. Autre exemple, en Béarn, le président de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour a pris hier un arrêté qui réorganise l'enseignement sur les différents campus de la fac. Il impose un certain nombre de contraintes, port du masque, strict respect de la distanciation en amphi avec l'occupation d'un siège sur deux, organisation de cours magistraux à distance ou encore élargissement des amplitudes horaires avec des cours dispensés jusqu'à 22 heures. Ici, comme à Toulouse, cette réorganisation est la conséquence de comportements des étudiants dénoncés par le président de l'université. On a eu n'importe quoi avec des étudiants qui ont organisé des soirées d'intégration sur les campus à Pau et Bayonne sans masque ni respect des gestes barrières. Avec des comportements de ce type, a-t-il ajouté, on va très rapidement voir apparaître des foyers de contamination. Cette reprise de la crise sanitaire a une réalité comptable. En l'espace de 4 jours, 59 personnes de plus ont été hospitalisées en Occitanie en raison du Covid-19. C'est du jamais vu depuis juin. La région a enregistré 14 décès et des suites de la maladie en l'espace d'une semaine. Plusieurs départements d'Occitanie sont plus particulièrement impactés, notamment la Haute-Garonne qui a accueilli 11 patients de plus en l'espace de 4 jours. Jean-Luc Moudingue était à Paris hier. Le maire de Toulouse y a rencontré les ministres de l'Intérieur et de la Justice pour plaider un renforcement des effectifs policiers dans la ville rose. Il souhaiterait obtenir 150 à 200 policiers supplémentaires. Jean-Luc Moudingue semble avoir été entendu. Sans s'engager sur des chiffres précis, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit d'accord sur le principe d'un rattrapage progressif du nombre de policiers. Le maire de la ville, Rose, souhaiterait un renfort de 40 policiers chaque année pendant 5 ans. Et puis concernant la justice, Jean-Luc Moudingue a rencontré le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Au cœur des échanges, le manque de magistrats à Toulouse. Le ministre s'est dit d'accord pour un rattrapage, là aussi, du nombre de magistrats, greffiers ou personnel administratif. Mobilisation des salariés des laboratoires Biofusion du Tarn-et-Garonne et du Lot. Ils sont en grève et demandent une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail. Hier, une rencontre entre syndicats et direction n'a rien donné. La direction de ce laboratoire de biologie médicale se dit consciente des conditions de travail difficiles de cette salariée depuis le début de la crise. Elle dit rester ouverte à la discussion, mais souhaite pouvoir le faire dans une atmosphère sereine. Autrement dit, quand les salariés ont repris le travail, la grève a été reconduite ce mercredi. C'est un rendez-vous que tous les professionnels de la petite enfance peuvent cocher sur leur agenda. Du 10 au 17 octobre prochain se tiendra la 7e édition de la Semaine nationale de la petite enfance. Elle est placée cette année sous le signe de l'aventure. Organisée par l'association Agir pour la petite enfance, cette semaine se déroulera dans toute la France et dans près de 300 lieux en Occitanie. Tous les départements de notre région y participeront. Les objectifs affichés de cette opération Semaine pour la petite enfance, eh bien, faire prendre conscience de l'immense travail effectué au quotidien dans ces structures d'accueil. Autre souhait, permettre les rencontres entre parents, professionnels et toutes les institutions parties prenantes du monde de la petite enfance. À signaler que durant cette semaine seront également décernés les Giraffe Awards, les premiers trophées de créativité des professionnels de la petite enfance. C'est un coup dur pour l'économie ariégeoise. Le sous-traitant aéronautique MKD installé à Varilhes devra fermer ses portes sous peu. Au cours d'un comité social et économique extraordinaire, MKD a annoncé aux représentants du personnel le projet de mettre un terme à son activité basée sur le site ariégeois en raison, je cite, de la réorientation structurelle des besoins de ses clients. Le projet de cessation d'activité doit être présenté rapidement aux instances représentatives du personnel. Une cinquantaine de salariés sont directement concernés. En matière économique, toutes les nouvelles ne sont pas fatalement mauvaises. Même si la crise aéronautique ne l'a pas épargnée, l'équipementier lotois Ratier Figeac vient de décrocher une nouvelle commande. Elle émane de l'armée de l'air américaine et concerne la fourniture de systèmes d'hélices. Leur conception et leur production seront assurées sur le site de Ratier Figeac. C'est désormais acté, le groupe BVA, notamment connu pour son institut de sondage et dont le siège social est basé à Toulouse, va changer de propriétaire. Placé en redressement judiciaire depuis le 5 juin par le tribunal de commerce, BVA et ses 1800 salariés dans le monde, 1000 en France dont 500 dans la ville rose, étaient toujours dans l'attente d'un repreneur. Le tribunal a désigné le fonds de dette Alcentra pour reprendre BVA, et ce, au détriment d'une autre offre portée par le management actuel. La totalité des salariés, les administrateurs judiciaires et le régime de garantie des salaires étaient favorables à cette dernière offre. Elle promettait un maintien de l'emploi sans condition sur les trois prochaines années. Le tribunal de commerce en a décidé autrement. C'est bien connu, la musique adoucit les mœurs. Eh bien, c'est une raison, peut-être, nécessaire pour ne pas hésiter à aller faire un tour à Marciac, dans le Gers, pour la journée portes ouvertes organisée ce mercredi toute la journée à l'école de musique Les Cadets de Pardiac. Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés. Un éveil musical est prévu pour les 3 à 6 ans. Une formation musicale pour enfants et adultes y est également dispensée pour l'apprentissage et la pratique d'une multitude d'instruments, tuba, trompette, trombone, clarinette, saxo, trompette, piano, batterie et percussion. L'école est ouverte aux enfants comme aux adultes toute cette journée de portes ouvertes. Et puisque l'on est à Marciac, restons-y avec un concert-événement demain soir dans la salle de l'Astrada. L'accordéoniste Vincent Perani et le saxophoniste soprano Émile Parisien nous donnent rendez-vous pour un concert où ils présenteront leur nouvel opus Abrasso, un album inspiré par l'incandescence du tango. Et puis bonne nouvelle pour Rodez, l'annonce de la réouverture dès mardi prochain, mardi 22 septembre, du musée Soulages. Il était fermé depuis le début du mois de septembre en raison de la découverte de 6 cas positifs au Covid-19 parmi des agents d'accueil et de surveillance. Cette fermeture a été d'autant plus douloureuse qu'elle est intervenue le jour même où un hommage devait être rendu à Pierre Soulages, qui a fêté l'hiver dernier ses 100 ans.
Merci Luc, on vous retrouve en fin d'heure pour le rappel des titres.
La météo.
Pour cet après-midi, quelques nuages, il fera quand même relativement beau avec en moyenne du 31 degrés. Pour demain matin, grand soleil pour la plupart des départements comme dans le Lot avec du 18 degrés ainsi qu'à Rodez et près de Nougaro, 19 pour le Tarn-et-Garonne, 20 à Castanet-Toulousaine et pour Saint-Gaudens. L'après-midi, encore de très belles températures. La maximale sera de 33 degrés à Catus Mirabel sur les terrasses du Capitole à Toulouse et dans le Gers, 32 pour Tarbes et 29 pour Rodez. Comme le début de semaine, gardez vos lunettes de soleil sur le nez, votre chapeau sur la tête et votre bouteille d'eau à proximité. Midi 32 tout pile, c'est l'heure de faire le tour des diocèses en même temps de mélanger la salade. Voilà, belle pause déjeuner.
On part en Ariège ce matin dans le diocèse de Pamiers, Couserans et Mirepoix. Et là, on y retrouve le père Serge Billot. Bonjour père.
Oui, bonjour Isabelle.
Quel temps vous avez en Ariège? On vous sent très loin, là.
Eh bien, écoutez, très bien. La journée commence bien, je crois. On aura une journée bien ensoleillée aujourd'hui.
Bien ensoleillée. Alors, bien ensoleillée, est-ce que ce sont les événements dont vous allez nous parler aussi, qui vont nous apporter un peu de lumière? Qu'est-ce qui se passe en Ariège dans les prochains jours, père?
Eh bien, écoutez, j'ai retenu un événement qui n'est pas tout à fait dans les prochains jours, mais très bientôt quand même, le 3 octobre, une journée pédagogique organisée à la Maison des Œuvres, à la Maison diocésaine de Pamiers.
Alors, ça ressemble à quoi une journée pédagogique?
Alors, donc, ce sera la troisième journée pédagogique. On avait une première journée sur la pédagogie active et ensuite une seconde sur la relation, la communication non violente avec les enfants. Et le 3 octobre, donc, le sujet sera autour de l'engagement des parents, appeler les parents à s'impliquer dans les activités catéchèses des enfants. Et donc, ce sera une journée, à mon avis, très intéressante parce qu'on en aura des outils un peu pratiques pour essayer donc d'impliquer les parents dans l'activité des enfants en catéchèse et aussi en aumônerie.
Et donc, c'est une journée à destination des parents? Ce sont eux qui sont ciblés dans cette journée?
Alors, c'est d'abord ouvert aux catéchistes et aux responsables de l'aumônerie. Voilà. Et ensuite, évidemment, s'il y a des parents intéressés, ils peuvent venir donc tout au long de cette journée qui commence à peu près à 9h30 et se termine vers 16h avec donc un repas partagé et bien sûr les limites sanitaires étant respectées.
9h30, 16h, c'est bien noté. Donc, c'est un souci que vous avez en Ariège. Probablement, ceux qui nous écoutent ailleurs peuvent avoir le même. L'idée, c'est quoi? C'est d'impliquer les parents, hein, c'est ça, dans les engagements de leurs enfants?
Oui, tout à fait, parce que l'expérience montre effectivement que souvent la catéchèse est perçue comme un service dans lequel on ne s'implique pas forcément en tant que parent, catéchèse ou aumônerie. Et donc, voilà, l'idée serait de se donner quelques outils pour ouvrir des portes et permettre aux enfants, aux parents plutôt, de s'engager davantage encore dans ces activités.
Et bien cette journée, donc, vous nous l'avez dit, ça a lieu le 3 octobre. Des informations complémentaires sont probablement à retrouver sur votre site. Un grand merci, Père. On vous retrouve merci. Dans 15 jours pour d'autres événements. Et demain, nous partirons dans le diocèse de Bayonne. À bientôt, Père.
À très bientôt, Isabelle. Au revoir.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9. L'air du temps avec Patrice de Planquette.
Bonjour à tous. Quelque chose est en train de changer dans les esprits. De vieux murs de séparation sont en train de tomber. Alors évidemment pas du côté officiel où l'on fait une campagne contre les écologistes caricaturés très faussement en ennemis de la joie des autres, comme dit Madame Schiappa, avec de vieux mots datant des années 70. Non, un mur vient de tomber du côté le plus inattendu, entre la gauche genre Libération et les catholiques. Ça, c'est nouveau, ça, c'est intéressant. Dans ce journal Libération, édition d'hier, deux pages entières expliquent que l'encyclique Laudato Si a fait changer les choses. Elle a fait comprendre à des catholiques que leur foi est incompatible avec un système économique qui idolâtre l'argent et qui exténue ce que les catholiques appellent la création et que les écolos appellent la planète. Et en même temps, l'encyclique a fait comprendre à des écologistes agnostiques que, contrairement à ce qu'ils croyaient, la religion catholique ne peut pas enseigner le mépris de la matière puisque c'est Dieu qui a créé la matière. Et Libération constate par ailleurs qu'on se trompe en confondant catholicisme et ultralibéralisme économique. Je me souviens d'avoir dîné en 2015 chez l'évêque de Grenoble avec Éric Piolle, le célèbre maire écolo de cette ville. Et justement, il déclare dans l'article de Libération, je le cite, « La spiritualité est l'adversaire le plus fort du capitalisme consumériste et financier qui attaque la question du sens pour ne penser qu'en termes de profit. Les communautés de croyance sont donc des espaces de contestation puisqu'elles questionnent cela. L'objectif de mon engagement, c'est justement de réintroduire de la spiritualité dans la politique. » Fin de citation. Et ça, ça ouvre des horizons. Il y a encore évidemment des incompréhensions. C'est ce que souligne l'ex-sénateur Jacques Muller, écolo et catholique, quand il dit à Libération « J'ai du mal à comprendre pourquoi les Verts qui se battent contre les manipulations génétiques dans l'agriculture ne considèrent pas que celles des embryons humains peuvent poser de graves problèmes. La vie ne nous appartient pas. » Fin de citation. Et José Bové est bien d'accord là-dessus avec Jacques Muller. Mais justement, des débats aussi urgents que celui-là, c'est en faisant tomber les vieux murs de séparation qu'on peut les ouvrir. Alors qu'en doublant ces murs d'un réseau de barbelés avec des mitrailleuses et en ouvrant le feu, comme le font certains en ce moment, non seulement on empêche toute confrontation des points de vue, mais on enterre toute possibilité de témoignage chrétien, c'est-à-dire d'évangélisation. Attitude qu'aucun catholique ne saurait approuver ni encore moins adopter, ça tombe sous le sens. Nous en sommes tous convaincus. À la semaine prochaine.
Radio Présence aux portes du Tarn. 97.9.
Dans 4 minutes, votre homilie, comme chaque jour, et dans les 15 dernières minutes de l'heure, vous aurez le rappel des titres de votre région, la météo. Nous, on continue cette pause entre midi et deux avec de la chanson et le groupe Glorious.
Dieu dans notre temps,
Dieu dans nos mémoires,
Dieu dans nous dansons, pour notre génération. Nous prions, parmi les acclamations. Élevons nos mains vers lui. Nous marchons, reçois notre adoration. Nous venons, élever ton saint nom. Notre Dieu est avec nous maintenant.
Présence à Belmont-sur-Rance, 93.1.
L'Évangile.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi,
en ce temps-là, Jésus disait à la foule: à qui donc vais-je comparer les gens de cette génération? À qui ressemblent-ils? Ils ressemblent à des gamins assis sur la place et qui s'interpellent en disant: nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé, nous avons chanté des lamentations, vous n'avez pas pleuré. Jean le Baptiste est venu en effet, il ne mange pas de pain, il ne boit pas de vin, et vous dites: c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il boit, il mange, et vous dites: voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais par tous ses enfants, la sagesse de Dieu a été reconnue juste. Acclamons la parole de Dieu.
Gloire à toi, Seigneur Jésus.
Nous venons d'entendre: parmi les dons, vous cherchez à obtenir ce qu'il y a de meilleur. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Qu'y a-t-il de meilleur? De quoi nous puissions être exclus, frères et sœurs? Le désir d'aimer qui est en nous, d'aimer et d'être aimé. Voilà ce que saint Paul nous dit. Et en entendant ces mots qui sont essentiels à la vie des hommes, à tout homme, j'allais dire à l'humanité, mais aussi dans l'expérience de Dieu. Être aimé et se découvrir capable d'aimer. Nous touchons le mystère de l'humanité dans sa dignité, le mystère de Dieu. En entendant cela, j'ai dans le cœur les si nombreux visages de Lourdes Cancer Espérance, mais comme le reflet, bien sûr, de la famille humaine tout entière, diverse, bigarrée, éprouvée, plus qu'il ne faut parfois, et qui reste touchée par l'un des plus grands défis, celui du cancer aux multiples visages. Et sur ces visages, mystérieusement, au plus profond, une aspiration la même que je viens d'évoquer, que Paul vient de nous donner, à vivre d'aimer quoi qu'il en coûte. Saint Paul, après l'énoncé de cette conviction, avouez-le si essentielle, et que nous célébrons, précise le contenu de l'amour. Avez-vous fait attention à cette longue litanie ? Notons qu'il ne s'agit pas d'abord d'exigence, du style « il faut pour aimer, il faut ceci ou cela », non. Il s'agit comme de décision, d'actes volontaires à vivre. Alors je le traduis, vouloir être patient dans l'épreuve, vouloir espérer, vouloir être dans la bonté malgré tout, vouloir être dans la vérité, pas simple, le vouloir, vouloir voir au-delà des apparences ou des images trompeurs d'un amour bafoué. On pourrait ajouter, vouloir être vrai face à la maladie. Vouloir cheminer avec l'espérance chevillée au corps. Je pense à cette confidence entendue un jour, alors que nous sommes habitués avec nos pèlerins les plus fragiles à l'accueil Notre-Dame, à cette confidence d'une dame à propos de son mari. Il était touché et par le cancer et par un début d'Alzheimer. Je cite ces phrases qui se sont comme imprimées en moi. Mon mari m'a toujours enrichi par son immense culture. Quand il est tombé malade progressivement, il a perdu ses connaissances acquises, son intelligence, il a perdu son autonomie peu à peu, la parole, puis il ne m'a plus reconnu, et puis même, il devenait agressif. Qui ignore cela, un Alzheimer ? Il ne m'est resté qu'une chose, je cite la phrase, il ne m'est resté qu'une chose, l'amour que je lui porte et qui m'accompagne désormais, toujours. Il faut parfois, avouez-le, aller chercher au plus profond de soi cette part de vérité qui nous rend capable d'affronter tant et tant d'épreuves, de situations difficiles et de ne pas perdre l'amour. Je vous invite à faire mémoire de tout ce qui a pu vous aider à avancer au plein cœur d'une épreuve de la vie, de l'accompagnement d'un proche d'un cancer. Comme s'il fallait sans cesse prendre conscience que la vraie réalité d'une personne, c'est ce qu'elle est sous le regard d'amour que je lui porte. Je répète cette phrase. Comme s'il fallait sans cesse, vous et moi, prendre conscience que la vraie réalité d'une personne, c'est ce qu'elle est sous le regard d'amour que je lui porte ou que je ne veux pas arrêter de lui porter. Comme peut-être un reflet maladroit de ce regard de Dieu qui ne désespère pas de nous. Certes, ne pas tout comprendre, ne pas tout voir, ne pas juger trop vite, ne pas s'enfuir trop vite, mais chercher ce qui dans nos vies a encore un visage d'amour. Alors l'Évangile nous rattrape au galop, c'est en Saint Jean. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Je termine par une citation d'un saint qui m'est cher, Saint Augustin. Peut-être celle-ci d'abord, qu'on connaît moins. Elle est d'une étonnante actualité. Tu es tenté parfois par l'esprit du mal, et voilà que tu prends conscience de la beauté de ton corps. Là, tu es témoin. Tu es tenté par la jalousie sur le sort des autres, et voilà que tu prends conscience qu'il vaut mieux secourir que de se comparer. Là, tu es témoin. Enfin, tu es tenté par l'esprit d'orgueil. Mais en voyant de plus pauvres que toi, tu ressens alors compassion et humilité. Là, tu es témoin. Amen.
Présence à Toulouse 97.9.
Je vous rappelle que si vous avez loupé l'une de vos émissions préférées, pas de panique, vous avez toujours le site de votre radio pour écouter les podcasts sur le www.radioprésence.com ou si vous avez votre portable à proximité, téléchargez notre application, c'est pratique et gratuit. Tout de suite, Elton John. It's a human
Radio Présence à Foix 100.2.
Il est midi 56 tout pile, le rappel des titres de votre région, c'est avec Luc Vidal-Giraud.
On le sait, la rentrée universitaire qui bat son plein suscite certaines inquiétudes dans le contexte actuel de crise sanitaire. Les 127 élèves testés positifs au Covid-19 à l'INSA de Toulouse sont là pour le rappeler. Ils ont d'ailleurs été priés de rester chez eux. L'enseignement se poursuivra à distance pendant au moins 15 jours. Et puis autre exemple, en Béarn, le président de l'université de Pau et des Pays de la Dour a pris hier un arrêté qui réorganise l'enseignement sur les différents campus de la fac. Jean-Luc Moudenc était à Paris hier. Le maire de Toulouse y a rencontré les ministres de l'Intérieur et de la justice pour plaider un renforcement des effectifs policiers dans la ville rose. Il souhaiterait obtenir de 150 à 200 policiers supplémentaires. Jean-Luc Moudenc semble avoir été entendu. Sans s'engager sur des chiffres précis, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est dit d'accord sur le principe d'un rattrapage progressif du nombre de policiers. Mobilisation des salariés des laboratoires Biofusion du Tarn-et-Garonne et du Lot. Ils sont en grève et demandent une revalorisation salariale et de meilleures conditions de travail. C'est un rendez-vous que tous les professionnels de la petite enfance peuvent cocher sur leur agenda. Du 10 au 17 octobre prochain se tiendra la 7e édition de la Semaine nationale de la petite enfance. Elle est placée cette année sous le signe de l'aventure, organisée par l'association Agir pour la petite enfance. Cette semaine se déroulera dans toute la France et dans près de 300 lieux en Occitanie. C'est un coup dur pour l'économie ariégeoise. Le sous-traitant aéronautique MKAD, installé à Varilhes, devrait fermer ses portes sous peu. Au cours d'un comité social et économique extraordinaire, MKAD a annoncé aux représentants du personnel le projet de mettre un terme à son activité basée sur le site ariégeois. Une cinquantaine de salariés est concernée. En matière économique, toutes les nouvelles ne sont pas fatalement mauvaises, même si la crise aéronautique ne l'a pas épargné. L'équipementier lotois Ratier-Figeac vient de décrocher une nouvelle commande. Elle émane de l'armée de l'air américaine et concerne la fourniture de systèmes d'hélices. Leur conception et leur production seront assurées sur le site de Ratier-Figeac. C'est désormais acté, le groupe BVA, notamment réputé pour son institut de sondage et dont le siège social est basé à Toulouse, va changer de propriétaire. Placé en redressement judiciaire depuis le 5 juin par le tribunal de commerce, BVA et ses 1800 salariés dans le monde, 1000 en France, dont 500 dans la ville rose, étaient toujours dans l'attente d'un repreneur. Le tribunal a désigné le fonds de dette Alcentra pour reprendre BVA. N'hésitez pas à aller faire un tour à Marciac dans le Gers pour la journée portes ouvertes organisée ce mercredi toute la journée à l'école de musique Les Cadets de Pardiac. Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés. Un éveil musical est prévu de 3 à 6 ans et une formation musicale pour enfants et adultes y est dispensée pour l'apprentissage de la pratique d'une multitude d'instruments. Et puis bonne nouvelle pour Rodez, l'annonce de la réouverture dès mardi prochain, mardi 22 septembre, du musée Soulages. Il était fermé depuis le début du mois en raison de la découverte de 6 cas positifs au Covid-19 parmi des agents d'accueil et de surveillance.
Avant de vous laisser, nous avons pris l'habitude de jeter un rapide coup d'œil sur la météo. Pour cet après-midi, quelques nuages avec en moyenne du 31 degrés. Demain matin, grand soleil dans le Lot avec du 18 degrés ainsi qu'à Rodez et près de Nougaro, 19 pour le Tarn-et-Garonne et 20 à Castanet et pour Saint-Gaudens. L'après-midi, la maximale sera de 33 degrés à Catus, Mirabel, à Toulouse et dans le Gers, 32 pour Tarbes et 29 pour Rodez. Je vous laisse avec Radio Vatican, votre journal international, et j'aurai le grand plaisir de vous accompagner dès demain à midi pour la pause déjeuner.
Radio Présence à Saint-Céré, 95.8.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Radio Vatican.
Audience générale ce matin au Vatican, le pape François poursuivi.